Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 4. Romains chapitre 4, et nous allons lire les 12 premiers versets. Romains chapitre 4, commençons donc la lecture au verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que Paul, après avoir décrit la justification par la foi, aurait très bien pu continuer avec le chapitre 5 directement, après avoir défini ce qu'est la justification, il aurait très bien pu continuer, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et nous viendrons à ce chapitre 5 dans quelques semaines. Mais Paul veut s'attaquer à tous ceux qui s'opposent à lui, qui disent que cet évangile est quelque chose de nouveau, qui contredit l'Ancien Testament. Et Paul a dit à la fin du chapitre 3 qu'il n'en est rien, qu'au contraire, l'Ancien Testament attendait, annonçait la venue de l'évangile, cette révélation de la justice de Dieu, ce maintenant qu'il décrit au chapitre 3, verset 21. Et Paul, donc, va passer ce temps au chapitre 4 pour montrer que l'Ancien Testament attendait et annonçait ce jour à venir. Et Paul mentionne deux personnages de l'Ancien Testament, et pas n'importe lesquels. Il mentionne le roi David, le psalmiste, un ascendant, quelqu'un qui était dans la lignée du Messie, le Messie qui était annoncé comme le fils de David. Mais il est aussi connu comme un adultère et un meurtrier. Mais Paul va montrer que l'Écriture révèle que David croit, que David a été justifié non pas par ses œuvres, mais par la foi. Et il parle d'Abraham, le père de la nation juive, le père des croyants. Abraham, lui aussi, a été justifié bien avant, comme nous l'avons lu en Galates chapitre 3, bien avant que la loi n'ait été donnée. Et Paul, donc, continue de parler d'Abraham, et nous allons voir ce matin, en particulier les versets 9 à 12. Abraham, qui a reçu le signe de la circoncision. Et ça, c'était encore un autre argument des Juifs qui s'opposaient à l'apôtre Paul, qui disaient, mais Paul, tu es en train de détruire notre religion. Nous, les Juifs, nous sommes les descendants d'Abraham. C'est à nous que Dieu a donné le signe de la circoncision. Et Paul fait ce qu'il a fait, et que nous avons soulevé la semaine dernière. Il fait ce qu'il fait, il a fait au début du chapitre, mais que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture au sujet d'Abraham? Et Paul souligne trois choses que la parole de Dieu nous dit, que l'Ancien Testament dit au sujet d'Abraham. Tout d'abord, Abraham a été justifié sans aucun rapport avec la circoncision. La question, en fait, c'est, est-ce que la bénédiction de la justification est-elle seulement pour ceux qui sont circoncis? Ou de la poser la question d'une autre manière, quand est-ce que Abraham a été justifié devant Dieu? En Genèse 15, verset 6, nous lisons que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Mais Abraham a été circoncis que bien plus tard. Nous le lisons en Genèse 17, à partir du verset 9. Paul est en train de dire à ces Juifs qui s'opposent à lui, il dit, mais regardez donc les Écritures. L'enseignement est clair, la conclusion elle est simple. Abraham a été justifié avant d'être circoncis. Tous ceux qui disent donc que Dieu justifie les circoncis s'opposent, vont à l'encontre du message de la parole de Dieu. Abraham a été circoncis bien après qu'il a été justifié par la foi. Paul est en train de dire ici que la justification, le fait d'être déclaré juste devant Dieu, ne vient pas de notre observation de rites ou d'œuvres. Paul souligne qu'Abraham n'a pas été justifié parce qu'il a fait quelque chose après que Dieu a fait alliance avec lui. Non, il a cru. Il a cru dans la promesse de Dieu, que Dieu allait envoyer son fils, sa descendance, la postérité d'Abraham, cette postérité qui allait être le sauveur, non seulement du peuple que Dieu avait choisi, mais aussi le sauveur d'Abraham. Et Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Il n'y a aucune œuvre, dit Paul, aucune action d'Abraham après qu'il ait cru dans le Seigneur, qui n'a été placée comme le fondement, comme la base de sa justification. Il n'y a rien qu'Abraham n'a fait après avoir cru qui n'est posé comme la base de la justification. La justification, la déclaration d'être juste devant Dieu, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Un puritain du nom de John Owen écrit ceci, « Une des choses les plus importantes au monde pour le chrétien, c'est de ne pas essayer d'ajouter au fondement de notre acceptation devant Dieu des œuvres que nous pourrions faire après être devenus chrétiens. Si nous sommes justifiés exclusivement, seulement, uniquement par grâce, sur la base de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, et que cela devienne notre lorsque nous croyons en lui, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit après des œuvres que nous pourrions faire. Et malheureusement, trop souvent, le chrétien a tendance à vouloir faire cela. Trop souvent, nous pensons que Dieu nous accepte parce que nous avons fait quelque chose de mieux qu'un autre. Dieu m'accepte plus parce que je suis meilleur que mon voisin. Ou inversement, Dieu m'accepte moins à cause de ma désobéissance, à cause de mes chutes, à cause de mes faiblesses. Mais Paul veut que nous comprenions cette leçon. Rien de ce qui arrive à Abraham après sa justification par la foi. Rien ne peut ajouter quoi que ce soit, ou rien ne peut enlever quoi que ce soit à sa justification. Il est déclaré juste devant Dieu par grâce. On ne peut pas ajouter à notre justification. On ne sera jamais plus justifiés qu'au jour où nous sommes devenus chrétiens. Pourquoi ? Parce que le seul moyen d'être justifié devant Dieu, c'est la justice de Christ qui est mise sur notre compte, qui est imputée sur notre compte. Et cette justice est parfaite. La justice que le Seigneur Jésus-Christ a obtenue, elle est parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter. Elle est parfaite. C'est ce qui nous donne la joie, c'est ce qui nous donne l'assurance pour le croyant. Si je passe ma vie à dire que si seulement je pouvais ajouter quelque chose au fondement de ma justification, je serais plus sûr de mon salut, ça c'est ajouter quelque chose de faux. Ça c'est polluer le lait spirituel. C'est ce que l'être humain il a tendance à faire par nature. Il a du mal à saisir que c'est par grâce uniquement, par le moyen de la foi. Trop souvent, beaucoup de personnes passent du temps, passent beaucoup d'énergie à essayer d'ajouter quelque chose. Ah, si seulement je pouvais connaître telle expérience ou faire ceci ou faire cela. Non. Qu'est-ce qui est plus certain que la promesse de Dieu ? Qu'est-ce qui peut être plus certain que le Fils de Dieu, que son sacrifice sur la croix ? Qu'est-ce qui peut être plus sûr que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous ? Il n'y a rien, et c'est sur la base de cette œuvre que le croyant est déclaré juste, parfait devant Dieu. Bien entendu, certaines personnes vont objecter, elles vont dire, mais si ces personnes, si les personnes peuvent croire qu'elles ne peuvent pas ajouter quoi que ce soit à leur justification, alors elles vont vivre n'importe comment. Et ça, c'est l'objection auquel Paul devait faire face déjà dans son temps. Paul, est-ce que tu dis vraiment que des personnes peuvent être justifiées en ne faisant rien si ce n'est croire au Seigneur Jésus-Christ ? Que des années de vie chrétienne fidèle ne peuvent rien apporter à cette justification ? Oui, c'est effectivement cela. Parce que si on ne croit pas cela, on ne croit pas dans l'Évangile. On croit dans une religion, dans le catholicisme romain ou dans une autre religion. C'est pour ça que nous avons besoin de revenir encore et encore à ce que Paul dit ici. Trop souvent, notre foi vacille, on regarde à nous-mêmes, on se dit, voilà, aujourd'hui Dieu m'aime, mais demain on se dit, ben, Dieu ne m'aime pas parce que j'ai désobéi, parce que ceci, parce que là. Et Dieu place encore et toujours la croix du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus ? Pour nous persuader qu'en Christ, Dieu nous accepte. Il a tout accompli. Il a tout fait. Et en lui, nous sommes parfaitement acceptés. Abraham crut. Sa justification ne dépend pas de la circoncision. Elle est en Christ et en Christ seul. Cela nous amène à la deuxième question, au deuxième point. Est-ce que la circoncision est sans valeur ? Et Paul dit non. Paul dit non. Paul dit au verset 11, « Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. » En fait, voilà l'erreur des Juifs. Ils avaient, pour reprendre une autre image, ils avaient confondu la bague de fiançailles avec la fiancée. Paul leur dit, vous êtes circoncis, mais vous ne voyez pas ce que la circoncision veut dire. Ils regardaient à leur circoncision et non à ce que la circoncision voulait dire. Et Paul va expliquer ce qu'elle veut dire. La circoncision n'a jamais été donnée comme base ou comme fondement de la justification. Elle a été donnée comme un signe, comme un sceau du don de la justice de Dieu pour le salut. Paul écrit au verset 11, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Paul souligne, insiste sur cela. Abraham était incirconcis quand il a été justifié. La circoncision n'est donc pas la base de son salut. C'est un signe, c'est un sceau du don de la justice de Dieu pour le salut. Abraham a été justifié sans la circoncision. Il a été justifié par grâce, justifié par le moyen de la foi. Et Dieu a ajouté à sa promesse de justice le signe et le sceau de cette justice dans cette marque de la circoncision. Alors cela soulève des questions. Comment est-ce que Paul sait-il cela ? Comment est-ce que Paul sait-il que Dieu a donné la circoncision comme un signe et comme un sceau ? Et la réponse, c'est parce que Paul lisait sa Bible. Paul connaissait sa Bible. Il savait ces choses. Il n'invente pas ce qu'il dit. Ce n'est pas une nouvelle révélation qui est donnée à Paul et à personne d'autre. Non, tout cela est écrit dans le livre de la Genèse. Genèse 17, verset 11, Dieu dit à Abraham, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce sera un signe d'alliance. La circoncision était ce signe d'alliance, l'alliance du salut par grâce. C'est là en Genèse 17. Ce signe fonctionne aussi comme un sceau. À l'époque, on mettait un sceau sur une lettre pour confirmer que la lettre venait bien de l'auteur, que c'était la réalité. Et dans toute la parole de Dieu, quand Dieu fait une alliance pour le salut, pour révéler sa grâce, il ajoutait des signes à sa parole. Et ces signes servaient à confirmer aux croyants qui regardaient le signe que Dieu avait dit vrai, que sa parole de Dieu, que Dieu allait tenir sa parole et que sa parole était vraie. Dieu n'avait pas besoin de le faire. Il n'ajoutait rien au salut. Mais le signe était là pour le croyant, pour le rappeler que ce que Dieu dit est vrai. On peut penser à plusieurs signes dans l'Ancien Testament. Le signe de l'arc-en-ciel pour Noé, le signe le sceau de la circoncision à Abraham. Plus tard, il y a le signe du baptême, de la scène que le Seigneur Jésus-Christ donne. Dieu a toujours donné un signe. Si on assiste à un mariage, on trouverait étrange qu'il n'y ait pas un échange de bagues. C'est intéressant qu'on appelle ça des alliances. Mais on trouverait ça étrange. Certaines personnes diraient que s'il n'y a pas d'alliance, d'échange d'alliance, les personnes ne sont pas mariées. Ce qui n'est pas vrai. On peut réellement être marié sans alliance. Mais qu'est-ce que l'alliance au doigt apporte au mariage ? Est-ce que ça rend un mariage plus légal ? Non. Alors qu'est-ce que l'alliance fait sur un doigt ? C'est un signe. C'est un sceau. Pour le couple, mais aussi pour ceux qui sont autour. Et Dieu sait comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Parfois, on dit, je n'ai pas besoin de signes. Je suis spirituellement mûr, je n'ai pas besoin de signes. Mais non, c'est de la folie. Dieu nous a donné ces signes. Dieu s'est approché d'Abraham et lui a donné ce signe. Un signe durable. Et ce signe est donné comme un sceau de la justice que Dieu lui a donné alors qu'Abraham a cru en lui. Ce signe ensuite devait être donné à tous les mâles, mais ce signe avait la même signification. Ce signe n'était pas un signe de la foi de la personne. Non, c'était un signe de la grâce de Dieu. Et Paul le dit ici, il ne dit pas que la circoncision est un signe et un sceau de la foi qu'Abraham avait. Non. Le signe de la circoncision ne dirige pas les regards vers Abraham. Au contraire, il les dirige loin d'Abraham, vers le Dieu d'Abraham, vers la volonté de Dieu de justifier ceux qui croient comme Abraham, vers sa provision de justice que Dieu allait donner dans la postérité d'Abraham. Et c'est vrai pour tous les signes. On pense à l'arc-en-ciel, le signe et sceau donné à Noé après le déluge. Est-ce que l'arc-en-ciel est un signe que Noé est croyant? Non. L'arc-en-ciel est un signe pour Noé que Dieu garde sa promesse, il garde son alliance. Ce signe pousse Noé à croire. Chaque fois qu'il voit l'arc-en-ciel, il peut se réjouir, il peut s'écrier, « Seigneur, tu te souviens de ta promesse envers moi. Et tu ne détruiras plus la terre de cette façon. » De la même manière, chaque fois qu'un garçon juif regardait la circoncision, il était censé regarder au-delà de la circoncision, vers la promesse que Dieu avait faite, qu'il accorde la justice à tous ceux qui croient comme Abraham avait cru. C'est vrai pour tous les signes. Il ne dirige pas nos regards vers la réponse que l'homme donne à l'Évangile. Non, il dirige les regards vers l'Évangile auquel l'homme répond. On peut dire cela de tous les signes. On peut dire cela du baptême. Si on considère le baptême comme un signe de notre foi, alors on n'a rien de plus. Et le baptême ne nous aide pas quand notre foi est mise à l'épreuve. Mais quand on voit le baptême comme un signe de la grâce de Dieu, de son salut, du fait que nous sommes unis à Christ mort et ressuscité avec Christ, que le sang de Christ nous lave de tous nos péchés, alors le baptême est un signe de l'Évangile et il fonctionne comme l'Évangile. L'Évangile ne dit pas « ressaisis-toi ». L'Évangile dit « regarde Christ, cours vers le Seigneur Jésus-Christ, fixe les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et non pas sur toi-même. » Et Dieu a donné tous ces signes pour cela, pour qu'on regarde à lui, pour que l'on trouve sa grâce et sa gloire en Jésus-Christ. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël a regardé à lui-même, à regarder aux signes. Et les circoncis sont devenus comme des incirconcis. Jérémie 9, verset 26, par exemple. « Toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. » Ils se sont détournés de l'Évangile. Ils n'ont pas regardé dans la direction qu'indiquait le signe. Non, ils ont regardé le signe, au lieu de regarder vers quoi pointait le signe? Vers la grâce que Dieu accorde à tous ceux qui croient dans le Messie qui était annoncé, dans le Sauveur, dans le Fils de Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ. La justification est accordée sans la circoncision. La justification a pour signe et sceau la circoncision, le troisième point. La justification est accordée avec ou sans la circoncision. Paul mentionne Abraham. Abraham a été justifié alors qu'il était incirconcis, afin que ceux qui regardent au même Dieu qu'Abraham puissent dire que Dieu justifie les incirconcis, et que les enfants d'Abraham, selon la chair, puissent eux aussi regarder Abraham et dire que Dieu justifie les circoncis qui partagent la même foi qu'Abraham. Voilà ce que Paul dit dans les versets 11 et 12. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Plus tard dans cette lettre, Paul va aborder un point difficile dans cette église à Rome, qui semble être une difficulté entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païennes. Mais Paul est déjà ici en train de préparer le terrain. Il est en train de leur dire, mais regardez, que vous soyez d'origine juive ou non, que vous soyez circoncis ou non, si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, alors vous partagez le même salut et vous avez le même Père dans la foi. Abraham, qui a cru ? Quand il était incirconcis et qui a reçu comme signe et sceau la circoncision. Donc quelqu'un d'origine juive peut dire « j'ai Abraham pour père », mais s'il est croyant, il va aussi partager cette déclaration avec un chrétien qui n'est pas d'origine juive, qui pourra lui aussi dire « j'ai Abraham pour père ». Et voilà la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a plus de barrière entre juifs et non-juifs en Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans ce chapitre d'Éphésiens chapitre 2. Toutes les barrières, cette barrière, ce mur de séparation, l'inimitié a été enlevée. Mais seulement en Christ. Seulement en Christ. Il n'y a plus cette séparation. La justification, Dieu justifie ceux qui sont incirconcis, tout en tant qu'il justifie ceux qui sont circoncis, mais qui ont la foi en Christ. Voilà le merveilleux évangile. Dieu a donné des signes, mais il n'y a pas d'espoir dans les signes. Ces signes nous pointent dans une même direction. Ce n'est pas le signe qu'il faut regarder. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui et lui seul en qui nous avons la justice de Dieu, la justification, la paix, la réconciliation avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin, qu'il nous accorde la grâce de suivre l'exemple d'Abraham qui a cru, et que nous puissions dire effectivement qu'Abraham est notre Père. Pas parce que nous sommes circoncis dans la chair, mais parce que nos cœurs ont été transformés, parce que nous partageons la même foi qu'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.